épaisse et s'engrasse des rouleaux, retombe et s'écrase comme de gros sacs qui explosent sur le sol. Mais on ne s'attarde pas. Les trois copains courent et crient, le vent couvre leur voix. La musique, qui vient d'une des maisons, les attend, elle les attire. La lumière qu'ils aperçoivent bientôt aussi, une belle maison de bord de mer, luxueuse et vaste, plongée dans le bruit et la lumière d'une fête d'adolescents en l'absence de leurs parents. Ce soir-là, une femme d'une trentaine d'années marche précipitamment dans un couloir d'hôpital. Elle attache sa blouse avec des gestes désordonnés. Elle est en retard. Et lorsqu'elle arrive à l'accueil du 9e étage, elle est essoufflée. Elle passe derrière le comptoir et se jette sur la porte, quelques mètres plus loin. Sybille? Sybille est en blouse, debout, penchée sur le bureau où elle est en train d'écrire. Elle a l'air fatiguée, elle est pâle. Ses cheveux sont châtains, mais comme elle se fait faire des mèches blondes, il devrait paraître plus clair, sauf que non. Elle a toujours l'air d'avoir les cheveux sales ou éteints. Pourtant, elle les lave tous les jours. Elle sait très bien qu'en ce moment, ça ne va pas trop. Elle se trouve une tête affreuse, c'est parce qu'elle fume trop. La fille s'excuse d'être en retard, elle prend n'importe quel prétexte, sa fille malade, mais Sybille ne l'écoute pas, ce n'est pas grave. Elle, personne ne l'attend. Lorsqu'elle rentre chez elle, Sybille traverse le couloir et le salon sans plus rien voir. Ni les murs, ni le parquet et les cartons qui traînent. Les livres sur l'énorme bibliothèque dans l'entrée. Ni les livres d'art sur celle, moins imposante, dans le salon. Ni les fringues sur la grande chaise en bois. Les imperméables et les blousons sur le porte-manteau. Les chaussures sous le buffet dans le couloir. Des bibelots, des photos, des affiches. Elle laisse tomber son sac sur le parquet, retire son manteau et va dans la cuisine. Elle ouvre le robinet et boit directement au filet d'eau. Elle longe le couloir et s'arrête près de la chambre de Samuel. Elle hésite à frapper, puis non, se reprend, glisse la main vers la poignée, ouvre lentement. La chambre est vide. Elle revient dans le salon, regarde l'heure, 0h42. Elle s'assied, se relève, prend son téléphone, rien. Elle le pose à côté d'elle, prend son paquet de cigarettes, fume. Elle finit par reprendre le téléphone, elle appelle. Malgré la musique à fond, Samuel sent le téléphone qui vibre dans sa poche. Il le prend, regarde, le range ostensiblement. Il capte le sourire moqueur d'un de ses copains. Oui, évidemment, c'est sa mère. Il se sent rougir. Il esquive en balançant n'importe quelle vanne et s'empiffre d'une poignée de cacahuètes. L'un des deux potes avec qui il est venu en voiture lui annonce que Viosna est bien ici, c'est sûr, elle est dans la salle de bain. Ils traversent tous les deux le salon, longent un couloir, vont marcher à travers plusieurs pièces et arrivent devant la porte d'une salle de bain très grande, bondée de filles qui finissent de se maquiller. Lorsque les deux garçons veulent entrer, une fille à la voix trop aiguë se met à crier en leur interdisant l'accès. Elle leur ferme la porte au nez, mais Samuel a le temps d'apercevoir Viosna penchée au-dessus d'un lavabo, en train de se mettre du rouge à lèvres. Elle ne le voit pas. Elle est terriblement sexy. Il en perdrait tous ses moyens, c'est sûr. Mais voilà, la porte se ferme et c'est déjà fini. Plus tard, Viosna danse avec ses copines. Elles sont entourées de garçons qui les regardent, font des tentatives d'approche. Samuel et ses deux copains les regardent de plus loin. Ils détonnent un peu. Ils ont l'air vaguement de skinhead, quelque chose d'approchant. Mais ils sont sans doute trop maigres. Quelque chose ne fait pas vraiment peur dans leur façon d'être, même s'ils sont différents de cette bande de lycéens, tous des petits bourgeois du centre-ville de Bordeaux, des fils à papa. Samuel et ses copains sont un peu les voyous de la soirée. Ils feront tout pour ne pas démériter. Ils boivent et fument beaucoup, se font un point d'honneur à vider la cuisine de ce qui se mange et se boit, hors de question d'être venu et de laisser quelque chose de comestible à ces rapiens de bourgeois. Finalement, l'un des copains de Samuel se dirige vers Viosna et se fait une place, à coups d'épaule et de coude. Les petits morveux qui auront leur bac sans difficulté ne font pas de difficulté non plus pour céder leur place. Le type approche de Viosna, lui adresse la parole. Il est le plus vieux, l'un des seuls à conduire. Il lui parle. Elle ne l'entend pas à cause de la musique, alors elle arrête de danser. Elle l'écoute et bientôt elle commence à rire. Samuel et l'autre copain regardent ça sans rien faire. Et puis ils assistent au moment où Viosna se laisse entraîner. Elle a dansé, elle a ri, ils ont bu. Maintenant, le couple monte à l'étage. Entre-temps, Samuel et l'autre ont squatté la cuisine. Ils ont vidé les bouteilles, sont revenus au salon, ont balancé des mégots sur les tapis, brûlé plus ou moins volontairement le cuir d'un canapé. Lorsqu'ils reviennent vers la piste de danse, le couple n'est plus là. Samuel et son pote décident de monter pour le retrouver. L'étage est vaste, presque personne. La musique s'engouffre dans la maison.